www.libradio.org. La radio qui vient à ta rencontre.
Alors nous sommes le mardi 9 février 2021. Bonjour Alessandra Cincin.
Bonjour William.
Bienvenue, on se retrouve.
Tu bien?
Ouais. Ben oui, bien sûr, j'espère bien. Alors on te reçoit cette fois-ci pour le deuxième observatoire. Le deuxième observatoire, tu es parmi les chefs de projet. Vous êtes un groupe de personnes professionnelles qui agissent dans cette association dont tu vas nous parler. En quelques mots, eh bien, tu pourrais te présenter ta trajectoire et puis ce qui t'a mené à travailler au deuxième observatoire. Et puis ensuite, nous présenterons l'association.
J'ai repris une activité, une formation professionnelle après avoir accompagné mes enfants au quotidien pendant de nombreuses années et une vie préhistorique dans le travail social. Et donc, je me suis lancée dans un master en études genre à une quarantaine d'années, 40 ans, je crois. Et puis, à partir de là, en fait, j'ai eu différentes initiatives militantes ou professionnelles qui m'ont amené un peu dans cette préoccupation de transmettre, enfin faire les liens, parce qu'assez vite quand tu retournes à l'Uni, surtout en étant un peu plus âgé, tu vois que c'est quand même une sacrée tour d'ivoire où en fait j'apprenais plein de choses passionnantes et j'avais envie de partager ça. Donc on s'était rencontrés à l'occasion d'un podcast que j'animais à l'époque. J'avais fait des fanzines, enfin plein de choses. Puis j'ai vu qu'en fait petit à petit cette envie de partager, j'ai pu la vivre de manière professionnelle. Et puis là, vraiment, au deuxième observatoire, en fait, je continue ça, à faire le lien entre des recherches académiques ou autres, des publics, des notions, des enjeux. Enfin voilà, je me sens assez comme une passeuse.
D'accord. www.2e-observatoire.com, ça c'est le site internet du deuxième observatoire. Vous êtes, je suppose, également présente sur les réseaux sociaux.
Alors écoute, moyennement, mais en Instagram, oui. Je pense que c'est notre compte, je crois que c'est 2E aussi. Ouais, c'est 2E-observatoire et pas trop sur Facebook et le reste, mais oui, Instagram.
D'accord. Alors l'association comporte deux volets de compétences. Hein. Le premier, et c'est celui sur lequel on va insister puisque il est de ton ressort, c'est l'Institut Roman de Recherche et de Formation sur les Rapports de Genre. Le deuxième volet, c'est le Centre de Compétences en matière de risques psychosociaux, souffrance et harcèlement au travail, c'est ça, hein ?
Exactement. Donc c'est à la fois deux expertises qui se déroulent un peu différemment parce qu'on n'est pas au même endroit des souffrances. L'Institut Roman de Recherche et de Formation, il est plutôt dans la prévention. Et puis le centre de compétences, lui, va à la fois dans une dynamique de prévention, mais aussi rencontrer les personnes qui sont en souffrance sur le lieu de travail. Donc on n'est pas tout à fait dans la même échelle.
D'accord, j'imagine que l'équipe évidemment échange et puis les unes nourrissent les autres, et ce qui fait que
absolument.
Vous travaillez de concert.
Absolument. Ouais, ouais. C'est très, ça s'irrigue des deux côtés, absolument.
Bien informé. Ça s'irrigue, très bien. Eh bien, je voulais te questionner sur le nom du deuxième observatoire, puisque ce nom n'est pas anodin.
Voilà, alors en fait, c'est une structure qui a été fondée il y a plus de 20 ans. Donc d'abord essentiellement sur les questions de harcèlement sexuel, et puis après il y a eu tout cet enrichissement aussi en nombre de collaboratrices, parce que ça peut être fluctuant, mais il y a eu des périodes où il y a eu moins de collaboratrices et aujourd'hui on est 6, et puis ça je crois que c'est le record du deuxième observatoire. Et en fait l'idée c'était donc à la fois deuxième observatoire, un hommage au livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, et puis c'était à la fois de penser, parce qu'à l'époque, il y avait justement des études qui étaient menées sur le travail et puis aussi dans les orientations professionnelles, comment ça se passait pour les filles et tout. Donc, c'était l'idée qu'en fait, un observatoire classique, soit de ses rapports de pouvoir, soit des lieux de formation, etc., pouvait être d'une certaine manière aveugle au rapport de genre. Tu sais, il y a eu vraiment une longue histoire de construction de la sociologie, etc., qui avait de la peine à intégrer le fait que, par exemple, dans une usine, il n'y avait pas que des ouvriers, mais il y avait aussi des ouvrières. Et puis, c'était intéressant de regarder comment ça se passait pour elles. Donc, quand tu proposes un deuxième observatoire, c'est une manière de dire que ce qui serait le premier n'est pas l'unique. Et que donc, il y a plusieurs manières d'observer le monde du travail, de la formation, etc.
Ouais,
Est-ce que j'ai été claire ?
Très claire, une manière de visibiliser les populations invisibles. Et effectivement, tu parles des usines, mais ne serait-ce que même à l'hôpital, hein, dans les labos, effectivement, on voit bien que les femmes le sont.
Oui, et puis de mettre en avant, il y a quelque chose de très important dans les études féministes qui ont montré qu'en fait, quand on observe, on n'est pas neutre, on n'est pas hors sol en train de regarder les choses comme si on était omnisciente ou omniscient, tu vois, et que l'endroit depuis lequel tu observes le monde est fondamental et peut amener un autre regard sur le monde. Donc c'était aussi une manière de dire, en fait, il faut multiplier les points de vue pour s'approcher au plus près d'un récit qui serait véridique sur le monde.
Oui. Quelques mots, si tu le voulais bien, de l'équipe. Tu l'as dit, vous êtes 6, vous êtes au paroxysme du nombre de personnes qui travaillaient ensemble. Est-ce des temps pleins ? Est-ce que les trajectoires sont à peu près similaires ? Je veux dire, toi, tu as fait l'HETS, ensuite les études genre. Voilà, qu'en est-il de qui compose cette équipe ?
Voilà, alors en fait, ce qu'on a en commun, c'est d'une part nos valeurs, mais c'est aussi, on a toute une formation, on a toute une expertise sur le système ou les rapports de genre, peut-être on définira un peu après.
Oui.
Donc ça, on l'a en commun. Puis après, chacune a des parcours assez singuliers en termes de formation. On est toutes à temps partiel. Et puis, ce qu'on a aussi largement en commun, c'est en fait l'organisation de l'association, parce que on a décidé de ne plus fonctionner dans des rapports hiérarchiques verticaux. Donc, en fait, la directrice qui a fondé l'association il y a 20 ans a pris sa démission il y a quelques années. Et puis, la décision était de pas la remplacer, mais plutôt de réfléchir et se doter d'outils concrets pour en fait être toutes en co-responsabilité de l'association. Donc ça, on a notre association en énorme commun.
Alors voilà, je crois que le temps est venu. Voudrais-tu nous dire, selon toi, qu'est-ce que c'est que le genre ? Que sont-ils ces rapports de genre ?
Voilà, alors en fait, après, on entend beaucoup dire les genres, les deux genres ou les X genres, etc. Et c'est vrai que nous, on s'affilie plus à une pensée en termes de système de genre. Et puis le système de genre, en fait, c'est une organisation sociale qui en fait a construit deux catégories principales, les hommes, les femmes. Et puis on appelle ça, le terme précis, c'est la bicatégorisation, hein, de répartir la population en deux pôles, et puis de ne pas leur accorder la même valeur en termes de rôle. Où on va voir en fait que ce qui est attribué, nous. Je vais juste préciser une chose. On parle beaucoup en termes de féminin masculin. Tu vois, ce qu'on attribue au féminin ou ce qu'on attribue au masculin, parce que c'est l'idée que par exemple un homme qui aurait un comportement, une manière de parler, des goûts qu'on attribue au féminin, il peut être aussi profondément victime de discrimination, parce qu'en fait c'est les valeurs du féminin. Qui sont moins valorisées que celles du masculin. Donc en fait, c'est dans cette on va observer quand on fait par exemple des études genre, on va observer comment cette bicatégorisation hiérarchisée, voilà, j'ai sorti tous les gros mots, s'articule dans l'histoire, comment les sciences se sont constituées dans cette approche. Voilà, on va relire le monde avec ces lunettes-là.
Ouais. Alors justement, ce déséquilibre des rapports de genre, selon toi, eh bien, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Parce que force est de constater aujourd'hui que, eh bien, ce déséquilibre, il est forcené d'une certaine manière, il est terrible.
Alors écoute, par exemple, tu vois, il y a souvent des gens qui me formulent à peu près la même question que toi avec un pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là ? Et puis en fait, le pourquoi, c'est une question qui n'a pas beaucoup de réponses. Moi, ce que j'ai observé ou dans mes études ou que j'analyse maintenant, c'est le comment. comment les choses se sont mises en place. Et tu vois, on va parler après de l'occupation de l'espace public, des cours de récré, etc. Et puis, quand on voit, par exemple, que la manière d'occuper ces espaces est très différente entre les petites filles et les garçons, par exemple en termes aussi de comment le corps va être mobilisé dans ces espaces-là, eh ben, tu peux voir que déjà, par exemple, 1200 ans avant Jésus-Christ, début des Jeux Olympiques, tu vois, on a interdit aux femmes de participer aux Jeux officiels qui avaient lieu à ce moment-là. On leur a accordé des Jeux entre elles, qui avaient lieu genre 2 semaines après le grand raout masculin. On leur interdisait, si elles étaient mariées, d'assister même aux Jeux. Et puis le sport était considéré comme un endroit, déjà à l'époque, était nommé comme un entraînement à la guerre et puis un entraînement à l'esprit de compétition. Et en fait, tu vois, avec cet exemple-là, bah, tu vois que le non-encouragement ou le moindre encouragement des filles à occuper leur corps de manière sportive, puissante, active, bah, tu vois que depuis tous ces millénaires, ça a été des normes, des lois qui ont été établies. Donc c'est une manière de montrer que nos différences qu'on peut constater, parce que il y a plein d'endroits où on peut constater des différences en termes de genre, elles sont pas naturelles, mais on voit comment elles sont construites depuis la nuit des temps.
De ton point de vue, voilà, comment juges-tu la situation en Suisse concernant justement ces rapports de genre, ce déséquilibre? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est en recul ou est-ce que ça s'améliore selon toi?
Bon, tu vois, quand je te parlais de réfléchir depuis quel endroit on observe le monde, moi j'ai envie de mettre plein de précautions parce que, tu vois, les situations, elles peuvent être très diverses suivant où on est dans cette société, ce qu'on vit, quelle est la couleur de notre peau, quelle est notre religion, quel est notre statut tu vois, économique, etc. Donc moi, j'ai toujours de la peine à faire des affirmations globales. Donc il faudrait prendre un peu, tu vois, situation par situation. Mais là, tu vois, il y a à la fois des choses qui avancent. Bon, en ce moment, on a fêté le 50 ans des droits de vote accordés
mais
aux
oui,
femmes.
Mais c'est ça, ouais.
Tu vois, donc ça c'est affreusement récent comme droit. Donc il y a toute la question de l'avancée des droits où là la Suisse est assez lente hein, en termes de droit à l'avortement, en termes d'assurance maternité, etc. Ça c'est un compte. Après il y a, c'est sûr que sur certains aspects on est dans une situation privilégiée. Et puis maintenant on peut aussi voir dans ce qu'on vit actuellement au niveau de la société, notamment suisse, que les femmes sont profondément atteintes, blessées et mises en danger par la gestion de la crise sanitaire. Donc
Oui.
Tu vois, c'est pas linéaire, c'est juste ça que j'ai envie de dire, l'histoire elle est pas linéaire quoi.
En fait c'est exactement un petit peu ça que je voulais entendre d'une certaine manière, puisque voilà, si on fait une incursion dans le monde, on le voit également, on a vu récemment une grande victoire en Argentine concernant justement l'avancée pour le droit à l'avortement, et parallèlement à cela, simultanément à ça, en Pologne, une régression terrible là autour, et effectivement dans la Suisse également, je pense que l'on peut dire que c'est, comme tu viens de le dire, quelque chose de qu'il y a des avancées inégales et que rien n'est jamais pour de vrai acquis d'une certaine manière.
Ben alors d'une part effectivement on voit hein, les choses elles sont pas inscrites dans le marbre hein, elles sont à remettre à l'ouvrage régulièrement, et puis aussi tu vois quel est le prix à payer pour les personnes qui se mobilisent pour faire avancer ces combats. Tu vois, tu parles de l'Argentine combien ça a reposé sur les épaules largement féminines, militantes ou pas, ou etc., pour faire avancer cette cause-là, tu vois. Combien d'épuisement, combien de... Et ça, c'est toujours assez... En tout cas, c'est un constat à faire que les choses ne se font pas. Il suffit pas de laisser faire pour que ça se passe, tu vois. Parfois, on entend cet argument, oui, mais l'égalité dans le monde politique, ça viendra tranquillement. Mmh. Puis en fait, non, il faut être proactif, il faut mettre de l'énergie pour changer les choses.
Et c'est là où justement vous intervenez au deuxième observatoire, on l'a dit, recherche, formation, prévention. Ça, ce sont les trois volets, les trois mots-clés, pourrait-on dire, qui qualifient votre travail. Dis-moi, est-ce une problématique, ces rapports de genre, sont-ce là une problématique qui est vraiment tous azimuts, largement partagés, ou est-ce qu'il y a des niches dans lesquelles c'est encore plus problématique, je ne sais pas, selon les classes sociales, selon l'instruction, l'éducation, selon voilà, l'écosystème social, l'âge, où est-ce qu'on observe cette problématique de manière un peu diffuse?
Bah, tu vois, le terme académique, c'est l'intersectionnalité.
Oui.
Hein, c'est l'idée de penser que on a plusieurs statuts sociaux. On n'est pas. Et puis, je m'excuse dans mon discours, je dis beaucoup les hommes, les femmes ou les filles, les garçons. Donc, il y a vraiment une pensée pour inclure les personnes qui se reconnaissent pas dans ces catégories. Donc, parfois, par facilité de langage, je vais être assez binaire, mais je m'en excuse. Mais donc, on n'est pas que hommes, on n'est pas que femmes. On a aussi justement d'autres ancrages sociaux. En termes de classe sociale, en termes d'origine, etc. Et puis quand tu croises toutes ces différentes identités sociales, les situations vont prendre d'autres couleurs, tu vois. Donc effectivement, je pense que les questions de rapport de genre sont absolument universelles. Les questions, les enjeux, les problèmes, maintenant ils se déclinent dans 1000 spécificités. Mais tu vois, il y avait une historienne qui s'appelle Joan Scott qui a beaucoup travaillé sur les questions de genre. Et puis, c'était dans les années 80, je crois, elle a publié un article pour réfléchir à cette catégorie d'analyse que pouvait être le genre. Et puis, elle dit qu'en fait, le genre, c'est le premier endroit à l'intérieur duquel ou au moyen desquels les rapports de pouvoir vont se jouer.
Mmh.
Et puis c'est intéressant parce que quand on avance sur les questions aussi de genre, où on va réfléchir au rapport à l'autre finalement, c'est une manière de penser plus largement comment on traite la différence, tu vois. C'est pas une porte qui se referme sur un domaine particulier de nos rapports sociaux, mais ça ouvre aussi l'angle sur toutes sortes de réflexions. Qu'est-ce que tu fais de l'autre? Qu'est-ce que tu fais de sa différence? Et malheureusement, il y a plein de moments dans l'histoire humaine où, en fait, quand il y a différence, il y a volonté soit de la supprimer, soit de la dévaloriser, tu vois.
Oui. Et puis, je suppose que vous êtes également confronté au problème du silence des victimes qui taisent leur affliction. Donc, j'imagine que là également, c'est difficile. Enfin, peut-être que ça l'est de moins en moins et on voit que des paroles enfin surgissent. Hein, on va pas s'attarder dessus, mais on a par exemple ici en Suisse actuellement de l'hashtag SwissMediaToo, où les femmes qui sont, bon, là en l'occurrence c'est un volet qui t'intéresse moins puisque c'est celui du travail, qui t'intéresse moins.
C'est pas qui m'intéresse.
Non, oui, j'allais mettre des guillemets.
J'ai moins d'expertise
voilà,
que mes collègues,
voilà.
Je t'invite.
Absolument. Je vais d'ailleurs te demander de m'orienter. Mais enfin voilà, on peut dire que Ce silence assourdissant des victimes qui taisent leur affliction, peut-être est-il en diminution. Et ça, c'est plutôt bien.
Bah, écoute, alors c'est sûr, hein, SwissMediaToo, enfin voilà, on a fait depuis plusieurs années maintenant qu'on assiste. Alors voilà, j'ai toujours la question, est-ce que c'est la parole qui se libère ou si c'est l'écoute qui peut enfin s'ouvrir? Parce que il faut voir aussi toutes les menaces et tous les problèmes que peuvent subir les personnes qui parlent. Et je pense que depuis tout temps, les personnes victimes, notamment de ces discriminations-là, ont essayé de partager, de dire ce qu'elles vivaient. Mais on a toutes sortes, tu vois, le fait de banaliser une parole, de remettre en question, non, mais c'est pas vrai, tu t'es fait un film, ou alors de culpabiliser, oui, mais enfin, tu t'es rendu chez cette personne, donc quelque part, c'est que tu voulais bien. Enfin, on voit toutes les entraves, les obstacles et les représailles que peuvent subir les personnes qui témoignent de ces souffrances-là. Donc, peut-être qu'effectivement, là, il y a une prise de conscience de ces enjeux-là, à savoir que si un individu ne parle pas, c'est pas parce que il est timide ou Dieu sait quoi, ou qu'il a pas le courage, mais qu'il y a une culture autour qui doit être transformée pour que l'écoute puisse se faire.
www.libradio.org. Il y a un avant et un après Libradio.